prochain invité, je devrais dire prochaine invitée, Madame Aïda Belmkadem, qui est étudiante au baccalauréat en droit à l'Université de Sherbrooke. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'elle est directrice de la clinique juridique de Montréal-Nord. La clinique juridique et l'Acamédia organisent un atelier fort intéressant sur le profilage racial pour les communautés noires de Repentigny le samedi 16 janvier à 14h, en mode virtuel, évidemment. Alors, pour nous en parler, donc, Madame Aïda Belmkadem, bonjour.
Bonjour, bonjour, comment ça va?
Très bien, et vous?
Ça va très bien, merci de m'accueillir, ça me fait super plaisir d'être présente.
Ben écoutez, aborder un tel sujet est tellement passionnant et tellement intéressant que je ne pouvais faire autrement que de vous inviter à en parler.
Écoutez, je suis très heureuse qu'on voit les choses de la même façon. Effectivement, c'est un sujet passionnant qui mérite toute la couverture médiatique que possible. Je pense que c'est important de promouvoir justement des initiatives communautaires, des collaborations, la formation d'individus communautaires, puis clairement une solidarité en ce qui concerne toutes les luttes contre le profilage racial.
Pourquoi est-il si important de parler de profilage racial?
Je pense que c'est un sujet qui demeure fondamental. Je veux dire, le traitement est clairement différentiel. Différentes situations se multiplient à Montréal depuis longtemps. Il y a différents rapports. Les prises de parole se multiplient. Je pense qu'il nous faut s'assurer que les jeunes, que les personnes des communautés noires, des communautés racisées, personnes de couleur, soient à l'affût, informées, se sentent aptes. Aient les connaissances suffisantes pour pouvoir justement comprendre leurs altercations avec la police, comprendre leurs altercations avec le corps policier dans différentes sphères. C'est important de comprendre quels sont vos droits, quelles sont vos obligations. Je pense que ce genre d'atelier, justement, promouvoit une information vulgarisée. Mm-hmm. Des fois, le monde juridique, l'information juridique, ça peut sembler tellement hermétique. L'objectif, c'est justement d'en parler puis de l'expliquer à tout le monde, parce que je pense que c'est fondamental, ça devrait faire partie de nos outils quotidiens que de savoir comment notre société fonctionne et de savoir comment on peut s'armer, quels sont nos recours, comment aller porter plainte si on semble vouloir le faire, si on est dans le droit de le faire. Donc, c'est dans cet objectif, je pense que c'est fondamental d'en parler.
OK. J'ai trouvé intéressant que le titre de l'atelier s'intitule « Comment réagir face au profilage racial de la police de Repentigny ». Là, vous ciblez un secteur bien spécifique et un lieu géographique. Pourquoi ça?
Oui, effectivement. Écoutez, en toute honnêteté, ce qu'on a remarqué, c'est que les pratiques policières de région en région varient. Et mm-hmm. un des sujets qui, moi-même, j'aurai le plaisir d'apprendre dans le cadre de l'atelier de demain, considérant que l'atelier a été formé par des bénévoles de l'équipe de profilage racial de la clinique en collaboration avec les partenaires à la CAIMédia. Mm-hmm. Donc, il y a des spécificités qui s'applique à Repentigny. Et pour ces spécificités, des outils qui sont utilisés par le corps policier de Repentigny, il y a un traitement particulier. Donc, les bénévoles qui ont créé l'atelier se sont penchés sur ces singularités pour s'assurer que les personnes à Repentigny se sentent interpellées et prises en considération en ce qui a trait à leur recours puis à leur réalité, en fait. L'idée, c'est vraiment d'y aller avec chaque profil. Donc, c'est important d'y aller avec une approche qui est subjective, puis Repentigny à ses propres pratiques. Nous aurons le plaisir d'en apprendre davantage demain, je pense.
Mm-hmm. Et Repentigny revient souvent dans les médias, parce qu'il y a souvent, hein, très très souvent, et j'insiste sur le mot souvent, il y a souvent des problèmes de profilage à Repentigny.
Oui, mais c'est ce que Pierre-Richard Thomas de la CAIMédia m'expliquait. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi on est entré en collaboration. Il y a toujours une réalité à Repentigny qui est particulière, qui est violente de racisme systémique, dont le profilage racial est la principale manifestation. Et je pense que c'est pour ça, en fait, qu'ils voulaient pouvoir avoir un atelier avec nous. Quand on en a parlé, on s'est dit que ce serait un bel outil pour justement rendre les citoyens et citoyennes, surtout les jeunes adolescents, un peu plus formés. Je pense qu'il y a une situation à l'été dernier concernant une situation de profilage racial. Un groupe de jeunes s'était fait justement remarquer un traitement différentiel en ce qui concerne un match de basket, je pense, pendant la période covidienne. La période du COVID, la période de pandémie a été particulière, puis le traitement s'est fait ressentir. Mm-hmm. Je pense qu'effectivement, Repentini repart de plus belle. Donc, l'atelier se voulait justement une belle façon de participer à la lutte, puis de les informer tout simplement. Donc, je suis tout à fait d'accord. Repentini revient souvent.
Et une fois que vous êtes mis ensemble à tout le monde et vous avez décidé de réaliser un atelier, d'accord? Quels étaient les éléments les plus importants, les plus cruciaux qu'il fallait à tout prix aborder pour que l'atelier fasse du sens pour ceux qui vont y assister?
Ben, l'idée, je pense, c'est simplement de comprendre les bases. Donc, comment ça se passe une discussion avec un policier? Quelles sont les raisons pour lesquelles le policier peut venir demander à ce que quelqu'un s'identifie, dans quelles circonstances? On appelle souvent des constats, ce qu'on appelle les constats, là, les tickets, ces constats d'infraction, pourquoi ils sont donnés, dans quelles circonstances, comment on les remet en question, ces constats-là. Donc, l'information la plus importante reste probablement les recours. Donc, comment réagir lorsqu'on considère avoir obtenu un constat qui n'était pas justifié parce qu'il découlait clairement de biais ou d'idées préconçues sur la personne en fonction de la couleur de sa peau. Donc, l'idée, c'est de pouvoir principalement se concentrer sur les plaintes en déontologie policière, comment aller porter plainte, comment faire un recours, comprendre pourquoi c'est important de le faire, puis donner une voix à ces jeunes qui souvent ne se manifestent même pas. Ils laissent courir les choses et ils ne réagissent pas. Ignorent le fonctionnement très simple par moment de comment on réagit à ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est de leur donner la base, justement. Quels sont vos droits? Quelles sont vos obligations par rapport à un constat d'infraction pour telle situation? Souvent des infractions réglementaires. Et par la suite, comment on réagit à ce constat? Donc, essentiellement, c'est pas mal ça.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez pensé faire la même chose avec la police?
Qu'est-ce que vous voulez dire? Si on leur donne une formation à eux aussi?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai l'impression qu'ils en ont plus besoin que ces jeunes.
Écoutez, je veux dire, je suis pas contre du tout. En fait, on a commencé... en fait, d'un point de vue totalement personnel, je pensais que ce serait bénéfique d'avoir d'abord des ateliers qui sensibilisent puis qui commencent une discussion avec les communautés visées, reprendre parole, se sentir valide dans sa reprise de parole, c'est important. Mais effectivement, et ça risque d'arriver prochainement, notre objectif, c'est de créer un pont, puis c'est de faire sensibilisation de l'autre côté aussi, de s'assurer que c'est entendu, que c'est compris, qu'il y a une mise en une réforme qui se veut réceptive. Donc effectivement, je pense que dans d'autres ateliers, on pourrait viser la police, les agents de police. Certains seront probablement réceptifs, d'autres peut-être un peu moins, mais l'idée, c'est justement d'entamer le dialogue. Je pense que c'est absolument pertinent, puis c'est prévu dans les plans.
D'accord. Est-ce que la police a réagi par rapport à cet atelier?
Pour le moment, on n'a pas encore eu de réponse. Donc, je vous avoue que je suis encore sur le qui-vive. J'ai bien hâte de voir comment demain ça se passe, qui sera au courant, comment la couverture médiatique va se faire, puis si on aura possibilité d'avoir un retour en termes de réaction, ce serait bien. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense la police de Repentigny, s'ils ont des commentaires, une volonté de participer ou d'entamer le dialogue, ça pourrait être très intéressant.
D'accord. Mais dites-moi, bon, il y a l'atelier qui aura lieu, je vais reprendre, et puis là, je vous permet d'intervenir. C'est demain, samedi 16 janvier 2021, de 14h à 15h. Exact. L'inscription est obligatoire. Alors, comment on fait pour s'inscrire?
Oui, exactement. Mais c'est un peu la logistique de toute la chose. Mm-hmm. Donc, la CAI Média, la Clinique juridique de Montréal-Nord, on a tous les deux des pages Facebook. Mm-hmm. Donc, je vous encourage sincèrement à aller nous suivre d'abord sur les réseaux. Et la CAI, LAKAY Média, MEDIA. Mm-hmm. Et la Clinique juridique de Montréal-Nord, on aura affiché nos liens, en fait. Donc, l'objectif, c'est d'abord de s'inscrire. On aime bien recenser le nombre de participants, s'assurer qu'on a un groupe intéressant. C'est bien pour nous, c'est bien pour vous. Puis par la suite, vous allez automatiquement recevoir un lien pour la rencontre Zoom de demain à 14h. Grosso modo, demain, il y aura une courte introduction de ma part, de la part de Pierre Richard Thomas de la CAI Média, mm-hmm. expliquer un peu qui on est, pourquoi on a décidé de faire un atelier. Souhaiter la bienvenue à tous et à toutes qui seront présents. Ensuite, les bénévoles de la clinique vont entamer leur présentation. Il y aura probablement quelques informations via une présentation rédigée, puis des interventions en personne. Mm-hmm. De la même façon, il y aura aussi Maître Alain Babineau qui sera présent lors de la rencontre. Et la fondatrice de la clinique juridique de Montréal-Nord, Maître Marie-Livia Baugé, devrait aussi être présente, faire une apparition, puis discuter un peu autant de l'atelier que d'une application mobile qui s'appelle Bon Cop, Bad Cop, qui est un outil, en fait, pour lutter contre les interventions ou les surinterventions de la police qui sont souvent injustes. Donc, ça se veut un outil super utile à télécharger sur notre téléphone pour s'assurer d'avoir, de récolter nos preuves, de filmer les policiers en action, de s'assurer qu'on puisse prendre un rendez-vous avec la clinique. Donc, il y a toutes sortes de choses. Il y a de l'information juridique sur l'application. Elle a lancé la clinique, donc ça vaut la peine d'être présent pour l'entendre.
D'accord. Et le nom de l'application, encore une fois?
Ça s'appelle Bon Cop, Bad Cop. Donc, okay. Ça se veut un jeu de mots. Bon, B-O-N.
Inspiré du
cop,
film, j'imagine.
Donc, policier en anglais. Mm-hmm. Bad, donc mauvais en anglais. Et cop encore. Donc, bon cop, bad cop.
Bad cop. Et bien sûr, avec cette application qui est gratuite, j'imagine?
Oui, elle est complètement gratuite à télécharger autant sur les produits Apple que les produits Android. Je pense que c'est complètement disponible présentement. Donc, ça sera discuté davantage demain. Donc, n'hésitez pas. Puis, surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions via les réseaux ou via courriel ou peu importe. On a un site Internet à la clinique. Donc, simplement nous écrire, ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir diriger ou ajouter toute information manquante.
D'accord. Et dites-moi, et cette question-là, je l'adresse à vous directement.
D'accord, je vous écoute.
Et vous dites que l'implication bénévole a toujours fait partie intégrante de mes ambitions.
Ah, oh, OK.
Et en ce sens, je demeure convaincu que le savoir se doit d'être partagé, transmis et outil de changement social.
Effectivement. Je me sens très privilégiée d'être éduquée, de m'être rendue. J'ai fait différentes formations à l'université. Je suis personnellement la seule universitaire de ma famille. Donc, j'ai toujours eu un rapport à mes accomplissements académiques. Je considère que c'est un privilège de m'être rendue où je suis. Et par le fait même, je pense que de ce privilège découle un certain devoir de transmission. Mon objectif est de devenir avocate. Je pense que les compétences, les qualifications que je suis en train d'acquérir et d'accumuler se doivent d'être transmises, se doivent d'être partagées. Les gens devraient tous et toutes savoir comment ça fonctionne exactement, les infractions, comment notre appareil judiciaire fonctionne, comment porter plainte. On devrait être capable d'avoir une certaine une capacité de réagir, puis souvent ça intimide. Donc je me perçois comme je pense que c'est important et fondamental que je puisse redonner cette information. L'image de l'avocat qui facture des sommes grossières, c'est pas pour moi. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler, de construire une meilleure société, de redonner et de partager justement. Donc oui, je suis tout à fait je reste fidèle à mes propos.
Et dites-moi, quel est le meilleur coût ou les meilleurs coûts de la clinique juridique de Montréal-Nord depuis sa création à l'été 2020?
Les meilleurs coûts?
Oui, ou les meilleurs dossiers?
je vous avoue que je suis particulièrement fière parce que on est très présents. Les gens nous posent des questions, les gens sont venus nous voir. On a eu une des meilleures initiatives qu'on a lancées, qui est probablement la clinique sans rendez-vous le samedi. Donc, on avait dès lors l'ouverture de nos bureaux au 3830 rue Henri Bourassa Est. Mm-hmm. Donc, on est dans Montréal-Nord un peu avant Saint-Michel. Et dès l'ouverture de nos bureaux, on a commencé une clinique sans rendez-vous. Les gens pouvaient venir nous voir, nous poser des questions. On a une équipe de bénévoles incroyable. Puis on a été capable de fournir près d'une cinquantaine de consultations gratuites avec suivi, recherché. On a pu aider des gens à trouver des juristes, à trouver des avocats pour les accompagner dans leur situation, dans leur litige. Donc, offrir une représentation, pouvoir avoir aidé des gens avec des conseils judicieux sur place sans inquiétude en termes de coûts. Je pense que ça a été le meilleur coup de la clinique. Clairement, on était une ressource en besoin. On l'a ressenti dès notre installation, puis on est très, très fiers de pouvoir contribuer. Puis idéalement, on continue en 2021, c'est clair. Donc ça serait un des meilleurs coups, je pense, la clinique sans rendez-vous, qui continue d'ailleurs, donc n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit. Et autrement, je pense qu'on a différents volets, donc ce qui est intéressant, je pense, qui a commencé avant même notre ouverture physique, mm-hmm. c'est la recherche, la vulgarisation juridique en ligne. En plus, on traduit en cinq langues, là, incluant le français et l'anglais. Donc, on écrit en arabe, on écrit en espagnol, on écrit en créole. Être capable de fournir de l'information concise, précise sur des notions juridiques sur nos plateformes de réseau dans différentes langues, je pense que c'est très impressionnant. Moi, ça me rend très fière. Je pense que notre équipe est dévouée et très talentueuse. Donc, clairement, ce serait dans les gros coups de la clinique. Puis, ce n'est que le début.
J'ai senti chez vous une volonté de vraiment démystifier l'aspect juridique des choses et surtout démontrer aux gens que en sachant leurs droits, ils peuvent plus facilement confronter, je ne parle pas de violence nécessairement, mais je parle de confronter dans le sens que d'interagir avec la police pour amenuiser l'impact des interventions des policiers.
Oui, certainement. Je pense que le savoir affranchi, je pense que les gens qui peuvent contrôler ce qui se passe. Je veux dire, dès lors que tu sais ce qui t'arrive, dans une intervention qui découle de profilage racial, clairement, il y a une injustice qui est ressentie par la personne qui est visée dès le départ. Mm-hmm. Elle le sait. Quelqu'un qui est profilé, une personne noire, une personne de couleur qui est profilée, habituellement, sans contredit, on est pas mal certain de ce qui se passe. Donc, il y a un traitement différentiel qui s'installe et la dynamique est tellement... Il y a de l'intimidation, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a toutes sortes de ressentis. Donc, pour au moins se défaire de tout ça qui est déjà injuste, toute la prémisse est selon moi inacceptable. Donc, au moins, si on peut donner des informations, savoir que tu n'as pas à faire plus que t'identifier, tu n'as pas à ci, tu n'as pas à ça, savoir comment faire pour la suite, savoir quoi faire pendant. Donc, je dois filmer, je dois m'assurer d'avoir son matricule, d'identifier convenablement le policier. Donc, c'est plein de petites choses que tu peux ajouter à l'événement traumatique que tu vis pour mm-hmm. au moins te sentir minimalement en contrôle puis savoir comment faire après. Donc, effectivement, je pense que je réitère mon point, là, le savoir affranchi clairement et mon objectif, je pense... ça fait partie de la mission de la clinique, c'est clairement d'être présent et d'accompagner les gens et de les outiller. C'est la première étape pour faire du changement.
D'accord. Alors, rappelez rapidement aux gens, c'est l'activité de demain.
L'activité de demain, ben écoutez, c'est un atelier concernant le profilage racial, donc les droits, les obligations, comment faire pour réagir au profilage racial par rapport à la police de Repentigny. Donc, je vous invite en grand nombre, autant pour apprendre vous-même des notions que vous aviez peut-être pas, et pour connaître un peu plus la situation de Repentigny. Effectivement, il y a des choses qui se passent là-bas qui méritent couverture médiatique, qui méritent militantisme. Donc, je vous invite fortement à participer à l'atelier, à poser des questions, ne gênez pas, il y aura des belles interventions, des explications claires. L'objectif, c'est justement de se sentir dans une discussion l'émission. Malheureusement, c'est la pandémie, donc on fait ça à distance, mais vivement la fin pour pouvoir se réunir, partager non seulement des discussions, des débats, mais surtout un moment en fait de solidarité. Donc, c'est essentiellement ça l'atelier. L'atelier se veut éducatif, interactif, intéressant. Donc, je vous invite fortement demain à 14h.
Merci beaucoup et au plaisir.
Merci, plaisir.